Pierre Sabatier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de PrimeView, cabinet d'études indépendant. Alors, vous avez récemment écrit un édito concernant l'Europe en disant que l'Europe faisait fausse route. Alors, c'est vrai que l'Europe reste en pleine crise, mais on pourrait dire les États-Unis aussi sont loin d'avoir retrouvé la croissance économique. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans, je dirais, les décisions qui ont été prises par l'Europe, par les différents pays, pour aller jusqu'à dire que l'Europe fait fausse route?
Alors, je dirais que l'année 2012 est un peu charnière en Europe, c'est-à-dire qu'on a pris des bonnes décisions en termes de politique monétaire, hein, qui ont été décisives pour régler ce qu'on appelle le risque d'arrêt cardiaque, à savoir une crise de liquidité liée à des vrais défauts de paiement de grands pays européens, ce qui n'était pas le cas jusque-là, puisqu'on n'avait que la Grèce dans cette situation extrêmement tendue. Hein, donc, le fait que la Banque Centrale Européenne devienne un prêteur en dernier ressort, c'était absolument indispensable à la survie de la zone. Maintenant, en ce qui concerne les politiques économiques, pas grand-chose, rien n'a réellement évolué. On reste en fait sur une rigueur budgétaire, à notre sens précipitée, qui ne fonctionne pas. Donc là, on est vraiment sur du constat. Hein. On regarde qu'est-ce que ça donne, en fait, une politique de rigueur budgétaire précipitée, que ce soit en Grèce, bon, mais la Grèce est un cas un petit peu à part, mais aussi au Portugal, et surtout en Espagne et en Italie, qui sont parmi les leaders européens. Et aujourd'hui, on constate clairement que la baisse, en tout cas essayer de baisser les déficits publics, ne débouche pas, on n'y arrive pas concrètement, tout simplement parce qu'aujourd'hui les agents privés, que sont les ménages et les entreprises de la zone, ne sont pas suffisamment forts, costauds, pour prendre le relais d'un État qui disparaîtrait.
Alors c'était justement peut-être le pari ou la réponse classique des États et de penser qu'effectivement, compte tenu de ces plans de rigueur, les agents privés allaient se remettre à consommer, allaient se remettre à effectivement donc peut-être faire repartir l'économie alors qu'on les voit plutôt épargnés. Si on prend le cas de la France par exemple, on a très bien vu ce qui s'est passé sur le livret A, les agents privés sont plutôt en train d'épargner.
Exactement. Et là, on met le doigt sur l'erreur initiale en termes de politique économique que n'ont pas commis les Américains. Clairement, c'est le principe ricardien, hein, qui voudrait que l'augmentation de l'épargne et la baisse des déficits publics pousse les agents privés, que sont les ménages et les entreprises, à désépargner, c'est-à-dire à consommer ou investir, pour contrecarrer en fait cette baisse des déficits publics qui, à terme, pourrait permettre de voir des impôts diminuer et donc rendre un petit peu de pouvoir d'achat à la fois aux ménages, à la fois aux entreprises. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne plus, en réalité, pour une raison assez simple, c'est qu'aujourd'hui, les agents privés n'ont plus faim. On est devant une problématique de précarisation des ménages et, in fine, des entreprises qui font qu'elles n'ont plus besoin de crédit. Et la meilleure preuve, c'est quoi ? C'est la trappe à liquidité dans laquelle l'Europe s'est enfermée, hein, à l'image du Japon au milieu des années 90, à savoir qu'on a une politique monétaire et une banque centrale qui descend ses taux proches de zéro, des incitations extrêmement fortes des banques pour prêter en fait aux agents privés des zones, et rien ne se passe, tout bêtement, parce qu'en fait, c'est pas un problème d'offre de financement, mais la demande de financement disparaît. Les gens aujourd'hui font face à deux situations qui compliquent l'avenir, à savoir d'une part un endettement initial trop élevé, et on est beaucoup plus aujourd'hui dans une dynamique de désendettement, hein, de deleveraging. C'est vrai pour les banques, mais c'est aussi vrai pour les ménages et les entreprises, je dirais d'une ampleur un peu moins grande parce que l'orgie a été un peu moins forte jusqu'à la crise. Et ça, c'est le premier effet très conjoncturel. On est parti sur la ligne de départ avec un gros stock de dette et aujourd'hui, on a plus envie, dans un monde qui est plus déflationniste qu'inflationniste, de diminuer ce stock de dette qui pèse lourdement sur l'avenir. Et deuxième chose, une défiance généralisée vis-à-vis de l'avenir. Hein. C'est le couple, hein. On passe d'un couple croissance-inflation et aujourd'hui les gens s'attendent beaucoup plus à un couple récession-déflation. Et dans ce cadre-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain est plus difficile qu'aujourd'hui. Et bien entendu, ça ne pousse pas à consommer ou à investir, ça pousse à épargner. Et la réalité, c'est que toute tentative de hausse de l'épargne publique ne débouche pas sur une hausse de l'épargne privée, sur une baisse de l'épargne privée, mais sur une hausse de l'épargne privée. Donc on est dans un cercle vicieux. Lorsque l'État se retire, les agents privés se retirent aussi, on est donc dans une spirale infernale, puisque toute tentative de baisse des déficits débouche sur une décroissance du PIB encore plus accélérée, et donc sur une baisse des recettes fiscales qui fait que, globalement, l'objectif initial ne peut pas être atteint. C'est ce dans quoi, en fait, l'Europe s'enferme aujourd'hui.
Alors, on avait vu, effectivement, le cas spécifique de la Grèce, mais c'était spectaculaire dans ce domaine-là, effectivement, avec l'explosion de la dette publique, hein, on voyait, et la décroissance de l'économie. On parlait des États-Unis, en même temps, on voit bien aux États-Unis, on parle de effectivement, de ce fiscal cliff, de cette muraille, effectivement, budgétaire. On ne sait pas encore comment les Américains s'en sortiront, mais on voit effectivement cette montagne de dettes. On se dit que l'Europe n'a pas la capacité ou n'a pas l'opportunité de faire la même chose que les États-Unis.
Elle ne se l'offre pas. Aujourd'hui, clairement, la zone euro a des fondamentaux économiques qui sont, je dirais, de meilleure facture quasiment. Pas d'un point de vue démographique, d'un point de vue structurel, mais au moins à court et moyen terme, a des meilleurs fondamentaux économiques que la zone États-Unis. Simplement, le fiscal cliff ne se matérialisera pas. C'est clair, pour une raison assez simple. Les États-Unis, les autorités américaines ont tiré les leçons des années 30. Et elles ont compris qu'en fait, s'orienter vers une rigueur budgétaire quand la demande privée n'est pas suffisamment solvable, n'est pas suffisamment solide pour prendre le relais et auto-alimenter la croissance, c'est un suicide. Donc à partir de là, vous verrez, les politiques monétaires américaines vont rester extrêmement expansionnistes pendant longtemps, mais aussi les politiques budgétaires, en dépit d'un déficit public qui restera très élevé. Pour une raison simple, on ne prend pas le risque, en tout cas on ne prendra pas le risque de s'orienter vers de la rigueur budgétaire tant qu'on n'aura pas resolvabilisé les ménages, parce que tout repose aujourd'hui réellement sur les ménages américains. Donc les États-Unis sont dans une situation difficile, mais ce ne se poseront pas de questions morales, à savoir est-ce que c'est bien ou pas bien de faire du déficit budgétaire. On est dans le pragmatisme économique, c'est là, je crois, l'avantage concurrentiel actuel des anglo-saxons. Ce pragmatisme les poussera à avoir un seul objectif en tête, resolvabiliser les ménages. Et pour faire cela, en fait, on mettra en place des politiques monétaires et budgétaires très expansionnistes pendant très longtemps.
Alors, si on vient à l'Europe, on a en tête peut-être des perspectives de sortie de crise qui s'éloignent, c'est-à-dire, certains parlent 2016-2017, avant que ça s'améliore, compte tenu justement de ces politiques qui ont été mises en œuvre. Est-ce qu'on a une visibilité là-dessus ?
Alors, c'est faire un grand pari ? Non, clairement non. Alors, ce qu'on sait concrètement, c'est qu'historiquement, une situation de surendettement total comme le monde industrialisé a connu, ça met entre 8 et 23 ans à se régler. Donc après, bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire globalement, lorsqu'on a surendetté, lorsqu'on a un stock de dettes, notamment porté par les ménages très important, ça met longtemps. Pour une raison assez simple, une entreprise surendettée, éventuellement, elle fait faillite. Elle disparaît et quelqu'un d'autre prend sa place. Un ménage qui est surendetté, on ne lui coupe pas la tête. Donc vous comprendrez, bien entendu, que faire porter, d'ailleurs, d'un point de vue au préalable, laisser gonfler une bulle de dette sur les ménages, c'est très dangereux en termes de politique économique. C'est au préalable, très dangereux, et derrière, c'est très compliqué d'en sortir, il faut très longtemps. Donc il faut vraiment être en soutien, peut-être passer par des systèmes de write-off sur la dette, pas que des banques, en fait, sur la dette également des agents privés, que sont les ménages, pour leur permettre de leur redonner un petit peu d'espoir déjà dans l'avenir, en diminuant le fardeau de la dette, et derrière, des perspectives pour qu'ils recommencent en fait à s'endetter. Historiquement, le cycle de désendettement des ménages avait duré à peu près 23 ans dans les années 30, à partir de 1929-1930 jusqu'à 1952. Et à partir du moment où la dette privée a atteint un niveau suffisamment faible pour que les agents privés aient à nouveau de l'appétit pour le crédit, on est re-rentré dans un cycle positif de croissance qui s'auto-alimente. Et à partir de ce moment-là, la dette publique peut chuter. Imaginez que la dette publique puisse chuter alors même que les agents privés n'aient pas fini leur cycle de désendettement, c'est une utopie. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas vous dire la sortie de crise de l'Europe en 2016, parce que si on s'oriente vers des politiques de rigueur budgétaire comme celle-ci, elles pousseront des grands pays comme l'Italie et l'Espagne dans une spirale déflationniste grave, très importante, qui ne touche pas que les ménages, d'ailleurs, vous avez compris, la demande privée, la consommation privée s'est effondrée dans ces pays-là, d'un ordre de grandeur de 22% en Italie par rapport à leur point haut, de 28% en Espagne également. Mais ce n'est pas que ça, globalement, l'investissement productif, lui aussi, s'est effondré.
En conclusion, ça veut dire que la France, quelque part, les plans de rigueur, les 60 milliards d'économies à venir, la France a fait comme l'Espagne et l'Italie, a choisi les mêmes méthodes, quelque part.
Alors, je dirais, la France finit par céder à la pression de l'Europe du Nord, qui, à mon sens, fait une erreur dans la précipitation qu'elle a à diminuer les déficits budgétaires. Mais elle le fait quand même d'une moindre ampleur que nos voisins italiens et espagnols, tout bêtement parce que notre situation est quand même, en termes de fondamentaux, moins grave aujourd'hui. Voilà. Mais on a tout intérêt à faire les choses très progressivement. La question n'étant pas « il faut la dette publique, parce que moralement, ce n'est pas acceptable. Bien sûr, il faut de la productivité dans l'appareil productif public, c'est évident. Mais attention, lorsqu'on a une sphère privée extrêmement fragile, on pourrait rentrer dans un cercle vicieux qui débouche sur des situations de dépression. Et le Japon nous montre, lorsqu'on est dans une situation et dans un couple récession, déflation, il est très difficile d'en sortir, notamment lorsqu'une population qui vieillit, ce qui est le cas dans l'ensemble de l'Europe, à l'image de ce qu'aurait connu le Japon au milieu des années 90.
Ouais, ce serait l'inverse de ce que le souhaitait l'Europe, en tout cas en termes de croissance. Merci d'avoir fait le point avec nous, Pierre Sabatier. Vous êtes donc le cofondateur de PrimeView.
Merci.